La revue de presse, Claude Askolovitch, bonjour Claude.
Bonjour.
La presse parle de tempête ce matin.
De deux tempêtes du siècle passé, c'est une étrangeté de lire des journaux qui semblent être parus il y a 20 ans. Le 26 décembre 1999, quand la tempête Lothar au nord dévasta l'ouest à l'est du pays, suivie le lendemain au sud par la tempête Martin. La tempête du siècle, les mots reviennent et vous verrez des photographies de milliers d'arbres couchés, de maisons éventrées et lirez des souvenirs aussi frais qu'au premier jour. Attention, le toit tombe! Criait le frère d'Isabelle à Romerie dans la Marne. C'est dans l'Union et l'Ardennais qui se souviennent qu'ensuite on mangeait à la bougie aux lampes à pétrole. À Louvigné des Déserts, c'est dans Ouest-France. Jacques Lagrève y perdrait un poulailler et 16 000 volailles. À Putelange au lac en Lorraine, Marie allait mourir quand un sapin tombait sur elle sur le parvis de l'église, se souvient le républicain Lorrain qui consacre plus de 10 pages à cette journée funeste où les arbres tombaient comme des dominos. Et ce sont les mêmes mémoires ressemblantes et uniques dans la montagne, le populaire du centre, les cours républicains, le bien public, le progrès, le Dauphiné. Libération raconte la guérison de nos forêts d'Alsace où insectes et pivers se sont logés et nourris des troncs abandonnés. La forêt guérissant nous. Oui, mais elle est menacée, me dit Libé, désormais par la tempête silencieuse du réchauffement climatique et aussi, ajoute l'Union, par un parasite, un insecte tueur d'arbres, le scolite, en sortirons-nous. Le Télégramme, étrangement, ne parle pas de la tempête vintenaire, mais se demande, depuis la Bretagne encore tempérée, si demain on pourra encore vivre dans le sud de la France. La sollicitude est glaçante. La Voix du Nord me dit qu'on respire des pesticides jusqu'en ville. Allons. Il reste au Figaro notre gloire éternelle et le journal me dit que les jardins du château de Versailles, dévastés il y a 20 ans, ont été replantés, reconstruits en mieux, puisque désormais sont respectés la mémoire et les emplacements des plantations royales. Je lis aussi sur le site de France Bleu qu'on a reconstruit le moulin de Valmy au lieu de notre révolution, qui, comme Versailles, tiendra désormais des siècles, y croyons-nous. À chacun sa gloire, l'humanité se souvient qu'en 1999, elle célébrait les services publics, ces travailleurs de l'électricité notamment, qui avaient rétabli le courant pour la France. Mais nos services publics sont affaiblis, ajoute le quotidien communiste. Nous serions moins prêts qu'autrefois face aux catastrophes. Voilà donc, les hommes, c'est le vrai sujet. Dans le Figaro, je lis un village des Alpes-Maritimes qui vient de sortir d'une autre méchanceté naturelle. En avril 2018, un glissement de terrain l'avait coupé du monde. On vient enfin de rouvrir une route, un chemin. Entre-temps, les déroutés de Sospel, comme on les appelle, avaient appris la liberté, la solidarité et la débrouillardise. Les Échos témoigne d'une autre catastrophe humaine, vieille elle d'une douzaine d'années mais qui vient d'être jugée, celle des suicidés de France Télécom, dont Orange, nouveau nom de la firme, ex-public, pourrait souffrir à son tour. Le jugement du 20 décembre dernier, qui actait le harcèlement moral institutionnel, autorise les salariés de l'époque, 2007-2008, à réclamer des réparations. Ils étaient 30 000, le risque pour Orange s'élèverait à 2 milliards d'euros. Dévastation.
On parle aussi de guerre ce matin dans la presse.
Et ayant fait le tour de nous-mêmes, il faut lire ce matin La Croix pour ces mots. Elle marche spectrale, le regard fixe et sans âge, la couche de poussière sous laquelle son vêtement et ses visages sont ensevelis la transformant en une âme errante qui hante la nuit les cauchemars des Sahéliens. Elle porte dans ses bras, couverts de la même poussière blanche, un enfant, son fils, un squelette de 10 mois, un petit bout en train de mourir. Et par la description de cette mère qui amène son enfant aux urgences de la ville de Dory, qui est venue en moto avec le fils malade pour fuir les bandits qui dévastent la région, La Croix nous fait entrer dans la tragédie du Burkina Faso, ravagée par la guerre et les djihadistes. Le nord du pays se disloque. Voilà les tempêtes que l'on connaît là-bas. La Croix encore et Libération me racontent la Syrie et la Noël des derniers chrétiens de la vallée du Kabour, où désormais les Turcs campent. Le Monde, dans un article glaçant, me raconte des enfants qui aujourd'hui ne font plus de rêves, dont le monde s'est écroulé, dont les cheveux parfois sont tombés d'un coup, il y a 5 ans, quand sont venus le bruit et la lumière des bombes, quand la guerre est arrivée à l'est de l'Ukraine. « Maman, je ne veux pas mourir », disait son fils de 5 ans à Yulia. Il semble aller mieux, il veut devenir Brad Pitt, le croit-on. Un livre, dont Libération rencontre, appelle la grande famine en Ukraine du temps du communisme, l'Holodomor des années 30, provoqué par la collectivisation des terres qui emporta 5 millions de personnes. Le mal revient en Ukraine par cycle, comme les tempêtes.
Et de l'histoire pour finir, Claude.
Et hélas, d'autres charniers enfouis. Dans la forêt de Beaulieu-sur-Layon, c'est dans le Courrier de l'Ouest, reposent les restes de 1362 soldats républicains tués face aux Vendéens en septembre 1793. Le site, longtemps laissé à l'abandon, est veillé par une femme, Françoise Cerisier-Parent, comme un hommage à ses ennemis, car elle se dit, cette dame, royaliste tendance Bourbon. Une telle fidélité semble de la poésie. Dans le journal, de Saône-et-Loire. Je vois une photo si belle en noir et blanc d'un homme en uniforme qui pose au milieu d'une famille et porte deux enfants sur ses genoux. Un petit garçon tire la langue, il s'appelait Lucien et n'a rien oublié. À la Noël 1939, la famille Paczynski, des travailleurs immigrés venus de Pologne, accueillaient à Montceau-les-Mines un compatriote, l'aviateur Aleksander Pietrzak, as de l'armée de l'air de Pologne, notre allié qu'Hitler avait envahi. Après cette photo, nous allions perdre la guerre. Le père et les oncles de Lucien se battraient au maquis. L'aviateur Pietrzak serait un as en Angleterre et mourrait en 1945. À Pau, me dit Lacroix, on a fêté hier Noël dans les familles de militaires en pensant aux amis morts au Mali. Le courage aussi revient par cycle comme les tempêtes, mais le bonheur aussi. Allons, j'en termine. On a retrouvé à Bessin, en Savoie, un livre de chants de Noël du 19e siècle, me dit le Dauphiné, qui me livre aussi les menus de fête en Haute-Savoie il y a 50 ans. Caviar glacé à la vodka, ragoût de crustacés, salmi de bécasse, noisettes de chevreuil aux truffes fraîches et mousseline de marron, bûche de Noël, ananas glacé. Ainsi mangeait-on quand, après la guerre, on faisait bonne chère, on y avait bien droit. Je lis dans l'Ardennais que le jeune Brian, à 19 ans, ouvre sa boulangerie. Merci à lui d'exister.
Merci à vous, Claude Askelevitch.